Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je me rends compte qu'on est en fait plus nombreux que ce que je pensais, mais c'est très bien, parce que c'est vrai qu'habituellement, durant l'été, il y a peu de monde, mais là, il se trouve que ça va. Donc vous êtes tous, en tout cas, les bienvenus. Et cet été, effectivement, nous prenons le temps d'écouter l'enseignement de Jésus dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Cet enseignement par les paraboles. Et parfois, Jésus s'adressait à la foule lorsqu'il racontait ses paraboles. Parfois, c'était pour répondre à une question. Et parfois, comme nous allons le voir cet après-midi, c'est pour répondre à une critique. Nous sommes au chapitre 15 de l'évangile de Luc, dans la partie centrale de cet évangile dont je vous ai parlé la semaine dernière, cette section centrale qui va de la fin du chapitre 9 jusqu'au chapitre 19. Et dans cette section centrale, eh bien, Luc raconte le voyage de Jésus vers Jérusalem. C'est là que notre Sauveur a été condamné. C'est là que notre Sauveur a été mis à mort sur une croix. C'est là que notre Sauveur est revenu à la vie le troisième jour. Et c'est durant ce voyage vers Jérusalem que Jésus enseigne à ses disciples ce que cela implique de le suivre. Et souvent, on a beaucoup commenté le fait que les disciples étaient si lents à comprendre leur maître, à comprendre ce que Jésus voulait leur dire. Mais le texte de cet après-midi nous révèle que les leaders religieux de l'époque avaient eux aussi beaucoup de mal à comprendre Jésus. Quel était le sens du ministère de Jésus? Quel était le sens de sa mission? Eh bien, nous avons une belle occasion cet après-midi d'entendre Jésus nous décrire ce qu'il est venu faire sur terre à travers cette parabole de la brebis perdue et retrouvée. Et avant d'en venir à cette parabole en question, eh bien, regardons ce qui précède. Dans quel contexte Jésus a raconté cette parabole qui est en fait la première d'une série de trois? Et j'espère que dans les études bibliques, en groupe de maison, vous prenez le temps de vous attarder sur le contexte de la parabole. Et voici le contexte de cette parabole. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux ». Nous savons que Jésus était très apprécié en tant qu'enseignant, en tant qu'orateur à cette époque. Il attirait littéralement des foules. Il n'avait pas d'écran géant, ni de micro, mais juste sa voix et son autorité naturelle. Et vous voyez la composition de ses auditeurs, des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Ni les uns ni les autres n'ont bonne réputation. Les collecteurs d'impôts étaient très mal vus à cette époque, eux qui percevaient pour le compte de l'occupant romain, ces juifs qui travaillaient pour l'occupant romain, et au passage, qui prenaient parfois pour leur propre poche. Quant aux pécheurs, ce sont ces gens du peuple dont il faut éviter la fréquentation, des gens de mauvaise vie. Et pourtant, ces collecteurs d'impôts et ces pécheurs sont venus pour écouter Jésus. Et Luc précise qu'il s'approchait de Jésus. Il n'avait pas peur de s'approcher de Jésus. Et c'est ce qui scandalise les religieux de l'époque. Cet homme, Jésus, les accueille et se met même à table avec eux. Aucun pharisien, aucun spécialiste de la loi, aucun juif pieux ne ferait une telle chose. Mais Jésus le fait. Ces gens, ces pécheurs, ces collecteurs d'impôts sont considérés comme des gens impurs. Il ne faut surtout pas manger avec eux. Alors qu'est-ce que Jésus est en train de faire à ce moment-là? Qui est cet homme qui va à l'encontre de ce que les pharisiens et les spécialistes de la loi enseignent? Et comme Damaris l'a déjà lu tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que Jésus est critiqué. Je relis dans Luc 5, verset 30. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples, donc aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Et puis deux chapitres plus loin, au verset 34, c'est Jésus lui-même qui parle et qui rapporte ce qu'on dit de lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Il faut vraiment nous rendre compte que ce que faisait Jésus, c'est-à-dire manger avec des pécheurs, avec des gens de mauvaise vie, allait à contre-courant des mœurs de son temps. Voilà pourquoi les chefs religieux ne comprennent pas Jésus et ne comprennent pas la portée de son ministère. Et c'est dans ce contexte d'incompréhension que Jésus leur raconte non pas une parabole, mais trois. Et aujourd'hui, nous allons juste nous intéresser à la première de ces paraboles. Mais est-ce que vous vous souvenez des deux autres ? Là, je vous interroge. Est-ce que vous vous souvenez des deux autres paraboles qui ressemblent à celles que nous étudions cet après-midi ? Si quelqu'un sait ? Alors, la pièce de monnaie qui est perdue. Donc, cette femme qui a perdu une pièce de monnaie et qui la cherche partout et qui finit par la trouver. Et puis, la troisième parabole qui est... Ah, vous ne vous attendiez pas à cet examen. Une parabole qui ressemble, quelque chose qui a été perdu et qui est retrouvé. On laisse les autres réfléchir, c'est ça ? L'histoire d'un père avec deux fils. Donc, vous avez trouvé ? Donc, cette histoire qu'on appelle parfois la parabole du fils prodigue ou du fils perdu et retrouvé. Mais ici, on va se concentrer sur la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Et ce qui est intéressant dans l'approche de Jésus, c'est qu'il s'adresse directement aux pharisiens et aux spécialistes de la loi. Il les met en quelque sorte en situation. Regardez le verset 4. « Si l'un de vous, » Jésus s'adresse aux pharisiens, « si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les autres, les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Aujourd'hui, on dirait « si l'un de vous possède quelque chose de très précieux et le perd, est-ce que vous ne feriez pas tout pour le retrouver ?» Ou encore, si l'un de vous se rend compte que son enfant n'est plus avec lui, n'allez-vous pas tout faire pour le retrouver ? Jésus se sert des réalités de son temps pour interpeller ses interlocuteurs. Et sa question est rhétorique. N'allez-vous pas tout faire pour retrouver cette brebis perdue ? Bien sûr. Bien sûr. Nous avons peut-être un peu perdu aujourd'hui la notion de la valeur d'une brebis pour un berger à cette époque. Mais à l'instant, lorsque je vous parle d'un enfant, un enfant qu'on a peut-être perdu comme ça dans la rue, vous comprenez à quel point cette brebis compte aux yeux du berger. Et cette brebis est tellement importante que le berger est prêt à laisser derrière lui 99 autres pour la rechercher. Et la suite de la parabole, comme celle de la pièce perdue, comme celle du fils perdu, eh bien, met l'accent précisément sur la joie. Je relis les versets 5 et 6. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Si vous avez déjà fait l'expérience dans un centre commercial ou dans un autre endroit, de perdre votre enfant dans la foule, ou bien si vous avez déjà perdu un objet qui est important pour vous, par exemple les clés, si vous avez déjà perdu vos clés, vous vous souvenez sans doute de la joie que vous avez éprouvée quand vous les avez retrouvées. Vous vous souvenez sans doute de la joie que vous avez pu éprouver lorsque vous avez retrouvé votre enfant que vous pensiez égaré. Et quelle joie pour ce berger d'avoir retrouvé sa brebis perdue, cette brebis qu'il porte sur ses épaules. Vous avez un peu cette image en tête ? ce berger qui porte cette brebis sur ses épaules. Et tellement joyeux de l'avoir retrouvée. Et c'est une joie telle qu'il veut la partager avec son entourage. Et j'imagine que lorsque vous avez retrouvé vos clés ou lorsque vous avez retrouvé votre enfant, vous n'avez pas organisé une fête pour l'occasion. Enfin, dites-moi le contraire, si c'est le cas. Mais vous voyez qu'ici, le berger va jusqu'à partager sa joie. Il invite ses amis, ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi !» Et voici donc au verset 7 le message de cette parabole, ce qu'il faut en retenir. Verset 7. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie. » L'accent est mis sur la joie. « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Souvenez-vous du contexte. Jésus est en train de répondre aux critiques des leaders religieux. Et il leur dit, quand un pécheur se repent, c'est-à-dire quand un pécheur regrette le mal qu'il a fait et qu'il veut complètement changer de vie, il y a de la joie dans le ciel. Pour le dire autrement, Dieu se réjouit quand un pécheur sur cette terre décide de renoncer à son péché et de vivre autrement. Dieu se réjouit quand un pécheur décide de suivre sa volonté, la volonté de Dieu. Et les pharisiens, les spécialistes de la loi, ne comprennent pas le comportement de Jésus, car en réalité, ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Ils ne connaissent pas vraiment le cœur de Dieu qui veut sauver le pécheur. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire à cette époque par le ministère de Jésus. Et ils se mettent à murmurer. Ils se mettent à critiquer Jésus au lieu de se réjouir de voir ces collecteurs d'impôts, ces gens de mauvaise vie se tourner vers Dieu. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus raconte cette parabole à ses pharisiens ? Pour leur dire qu'au lieu de murmurer dans votre coin, vous devriez vous réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Oui, en s'approchant de Jésus pour l'écouter, et sans doute pour l'écouter parler du royaume de Dieu, eh bien, ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs se tournent vers Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu leur est accessible. Là où les pharisiens pensent le contraire, le royaume de Dieu leur est accessible à ces pécheurs, à ces collecteurs d'impôts, à ces gens qu'on ne veut pas fréquenter. Et quant aux 99 justes, qui n'ont pas besoin de changer d'attitude, eh bien c'est de manière ironique qu'il faut le comprendre. Car qui n'a pas besoin de se repentir ? Et comme nous l'avons vu la semaine dernière avec le professeur de la loi, ces 99 justes représentent ceux qui s'estiment déjà justes. Mais Dieu déclare dans sa parole que tout homme est pécheur. Et l'apôtre Paul le dit clairement lorsqu'il écrit aux Romains, aux chrétiens de Rome, chapitre 3, versets 9 à 12. « En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. » Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Les pharisiens se trompent. Dieu ne se réjouit pas pour ceux qui estiment ne pas avoir besoin de repentance. Mais Dieu se réjouit quand un jour, tu as reconnu ton véritable état de pécheur. Il s'est réjoui quand tu as renoncé à ta vie d'avant, sans lui et sans véritable sens dans ta vie. Il s'est réjoui à ton sujet quand tu as fait ce pas de tout lui abandonner pour le suivre, pour vivre pour lui. Dieu s'est réjoui quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et aujourd'hui, chaque fois qu'un pécheur se convertit, eh bien, Dieu se réjouit. Parce que la brebis perdue a été retrouvée. Et nous devrions aussi nous réjouir. Rappelez-vous ce berger qui invite ses amis et ses voisins à se réjouir avec lui. Nous devrions nous réjouir que dans sa grâce, Dieu continue de sauver des pécheurs. Que Dieu continue de chercher des brebis perdues jusqu'à les retrouver. Cela devrait nous réjouir. Les pharisiens auraient dû se réjouir, car c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre. Et comment Jésus s'y est pris ? Eh bien, Jésus a accueilli ces pécheurs. Ces pécheurs que les autres évitaient. Jésus a mangé avec eux, au risque d'être critiqué par ses contemporains. Et c'est ce que notre bon berger a fait. Conformément à ce que Dieu a annoncé bien avant, par la bouche du prophète Ézéchiel. Alors Ézéchiel, c'est longtemps avant Jésus, enfin plusieurs siècles en tout cas, et à cette époque, les dirigeants du peuple d'Israël n'avaient pas bien pris soin du peuple. Et écoutez ce que Dieu leur dit. Dans Ézéchiel chapitre 34, versets 15 et 16, c'est Dieu qui parle. « C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. » Là où les hommes ont échoué, Dieu a pris les choses en main. Et dans sa grâce et dans son amour, Dieu nous a cherchés alors que nous étions perdus. Jésus déclare lui-même, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, verset 10, « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Allons un peu plus loin. Dans le chapitre qui précède notre texte, donc avant Luc 15, il y a Luc 14, oui, et Jésus raconte une parabole. Dans cette parabole, il raconte l'histoire d'un homme qui organise un banquet et qui invite des gens qui se décommandent les uns après les autres, qui ont des excuses pour ne pas venir. Alors le maître, totalement en colère hein, de ne pas recevoir ses invités, eh bien envoie son serviteur chercher d'autres invités totalement inattendus, des pauvres, des aveugles, des boiteux. Avec Jésus, le royaume de Dieu s'est approché des pécheurs. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu n'a jamais été aussi proche des hommes en chair et en os qu'à cette époque-là ? Dieu n'a jamais été aussi proche en chair et en os des hommes qu'à cette époque-là. Le Seigneur lui-même a la même table que les pécheurs. On aimerait bien aujourd'hui que Jésus soit aussi à notre table, physiquement, en chair et en os. Le Seigneur avec des pécheurs. C'est un avant-goût du banquet dans le royaume de Dieu. Et à cette époque, ces pécheurs-là ont vécu cet avant-goût avec Jésus. Et cela est possible parce que Jésus est venu pour déchirer le voile qui séparait l'homme pécheur du Dieu saint. C'est pour cela que le royaume de Dieu s'est approché des hommes. Et chaque fois qu'un collecteur d'impôts, chaque fois qu'un pécheur notoire se tournait vers Jésus pour changer de vie, il y avait de la joie dans le ciel. Une joie qui ressemble à celle que l'on éprouve lorsqu'on a retrouvé ce qu'on avait perdu. Alors oui, réjouissons-nous, car Dieu cherche les perdus et les retrouve. Dieu cherche les perdus. Et il arrive à les retrouver. Parfois, nous perdons des choses et nous n'arrivons pas à les retrouver. Mais Dieu retrouve ce qu'il cherche. Et soyons certains qu'aujourd'hui, Dieu poursuit son œuvre par l'Église. Et à ce titre, il est intéressant et important, je crois, de s'informer sur ce qui se passe en France, sur ce qui se passe sur le champ missionnaire à l'étranger, sur ce qui se passe du côté de l'Église persécutée qui grandit malgré tout. Oui, informons-nous pour nous réjouir de ce que Dieu fait. Si nous ne savons pas ce que Dieu fait, comment pouvons-nous nous réjouir de cela ? Et grâce à notre passage à l'Institut biblique de Nogent, eh bien, Damaris et moi, nous connaissons un certain nombre de missionnaires sur le terrain. Nous recevons de leurs nouvelles et nous voyons comment l'œuvre de Dieu avance dans ce monde. Il y a un mois, une sœur en Christ, Maria, pour ceux qui étaient présents, nous a présenté son projet d'aller au Japon pour y apporter l'Évangile qui est peu connu là-bas. Et cela nous réjouit lorsque nous voyons des fruits, lorsque nous voyons des personnes qui se tournent vers Christ. Cela nous réjouit parce que c'est l'œuvre de Dieu qui consiste à chercher et à trouver celles et ceux qui sont perdus. Cette semaine, dans la lettre d'info, il était question de cette émission sur la mission, produite par la WEC France, qui est un organisme de mission. Je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Ce sont des témoignages de ces missionnaires qui sont encore sur le terrain. Nous avons tellement de ressources à notre disposition, et jusque dans notre Église, si je fais mention juste de ces brochures que vous avez dans le hall, je ne sais pas si vous avez fait attention ce que c'est, si vous avez regardé de près, donc c'est la CIM, un autre organisme de mission qui édite ces revues et qui donne des informations sur ce qui se passe sur le terrain, sur les champs missionnaires. Comment pouvons-nous nous réjouir de ce que Dieu fait si nous ne savons pas ce qu'il fait ? Nous avons tellement de ressources à notre disposition pour nous informer de ce que Dieu fait ici ou là. Et parfois, il vaut mieux passer une heure à lire ces nouvelles plutôt que de passer en boucle ce que les médias nous montrent. Parce que les médias ne parleront jamais de ce que Dieu fait dans le monde. Mais par contre, nos frères et sœurs qui sont sur le terrain en parlent. N'oubliez pas d'en prendre. C'est gratuit. Vous pouvez en prendre. On les reçoit à l'Église. Je voudrais terminer sur ce que cela implique de comprendre un peu plus, un peu mieux le cœur de Dieu pour celles et ceux qui sont perdus. Et je l'ai dit, Dieu poursuit son œuvre par l'Église. Et comment puis-je y prendre part, moi, vous ? Comment puis-je y prendre part ? Quand nous voyons le temps que Jésus passait avec les collecteurs d'impôts, avec les pécheurs, cela nous interroge peut-être sur le temps que nous passons avec celles et ceux qui sont perdus. Et je suis le premier à me demander s'il ne faudrait pas que je passe plus de temps avec des non-croyants. S'il ne faudrait pas que j'investisse plus dans ces relations. Et je vous propose maintenant d'en parler en petits groupes, durant un bon quart d'heure, avant de pouvoir nous retrouver pour la conclusion. Et voici les questions sur lesquelles j'aimerais que vous puissiez partager ensemble, pouvoir vous demander, eh bien, comment évaluez-vous le temps que vous passez avec celles et ceux qui sont perdus ? Pas du tout de temps, peu de temps, assez de temps, beaucoup de temps. Et la deuxième question, comment pourriez-vous vous investir davantage dans ces relations, être plus proche d'eux ? Et donc de partager des idées entre vous. Si vous pouviez vous mettre peut-être en groupe de 5, par exemple, et vous répartir dans la salle. Et nous avons un quart d'heure pour la discussion. À tout de suite. Jésus a répondu au murmure des pharisiens et des spécialistes de la loi, qui n'ont pas compris l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu était en train d'accomplir à leur époque. Et par la parabole de la brebis perdue et retrouvée, eh bien, Jésus nous montre ce qui réjouit Dieu. Et peut-être que parfois on a tendance à l'oublier. Ce qui réjouit Dieu, qu'un pécheur change radicalement de vie. Ça réjouit Dieu. Et nous devrions nous réjouir chaque fois que nous entendons ce miracle que Dieu accomplit. Et c'est à nous de nous informer. Et comme nous venons d'en discuter dans les petits groupes, soyons proches de celles et ceux qui sont perdus, afin que Dieu les attire à Christ, afin qu'ils comprennent qu'en tant que pécheurs séparés de Dieu, ils ont besoin que quelqu'un paye pour leur péché. Ils ont besoin que Jésus soit vraiment mort pour que Dieu puisse les pardonner et qu'il ait ressuscité afin que nous obtenions une vie nouvelle. Alors soyons proches de celles et ceux que Dieu cherche. Et quand ceux-ci, ces brebis perdues, se tourneront vers Christ, soyons-en sûrs, il y aura de la joie dans le ciel. Amen. Prions ensemble. Merci notre Père pour ta parole et de nous avoir rappelé ce qui réjouit ton cœur. Et nous savons que ça a coûté à ton Fils unique. Ça lui a coûté parce que c'est ainsi que des pécheurs peuvent passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et pourtant, Seigneur, à chaque fois qu'un pécheur se tourne vers toi, tu te réjouis. Et merci, Seigneur, parce que tu as montré par le ministère de Jésus que, effectivement, tu es venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Et tu as réussi. Tu en as rassemblé. Et ceux-ci même qui sont devenus des disciples, eh bien, ont continué à propager la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, à notre tour, Seigneur, nous te demandons encore, accorde-nous d'être proches de celles et ceux qui sont perdus. Accorde-nous de pouvoir saisir les occasions qui se présentent, de pouvoir leur parler de Jésus. Parce que nous savons que c'est la seule bonne nouvelle qu'ils doivent connaître. Et nous voulons te remercier parce que tu ne nous abandonnes pas dans cette tâche, dans cette mission que tu nous as confiée, mais tu nous accompagnes jour après jour. Et tu nous permets ainsi de pouvoir nous réjouir de ce que tu fais. Oui, accorde-nous de la joie lorsque nous voyons ton œuvre avancer, lorsque nous voyons ton royaume avancer. Et que toute la gloire te revienne. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.